Chapitre 31. Le Parisien porte si loin le goût du théâtre qu'il prend intérêt aux faits des plus insignifiants qui touchent les comédiens. Qu'un grand personnage arrive à Paris ou quitte Paris, cela ne mérite pas qu'on s'en occupe. Mais qu'un comédien revienne d'Asnières ou de Nogent à Paris, et voilà que cela est une affaire. Le lendemain de cette répétition, les journaux bien informés annoncèrent que Mademoiselle Raphaël, qui, aussitôt après son retour de Russie, avait disparu sans qu'on sût ce qu'elle était devenue, s'était présentée la veille au théâtre de l'Opérette pour prendre son rôle dans Les Compagnons d'Ulysse. Absente de Paris, la charmante transfuge n'avait point reçu ses bulletins de répétition, tout simplement. Il ne s'agissait donc point d'une renonciation au théâtre, comme quelques-uns de nos confrères, toujours mal informés quand ils ne nous prennent pas nos renseignements, l'avait annoncé. Les Compagnons d'Ulysse lui serviront de pièce de début et lui offriront un rôle tout d'espièglerie et de malice dans lequel elle trouvera l'occasion de se révéler au public parisien et de montrer ses qualités de finesse et d'entrain qui lui ont valu de beaux succès en Russie. Cet article, ainsi que d'autres du même genre, avait paru dans certains journaux du matin. Le soir, vers 4 heures, c'est-à-dire au moment où se terminent habituellement les répétitions, Poupardin se présentait dans la loge de la concierge du théâtre de l'Opérette, encombrée de comédiens et de comédiennes, de vieilles femmes, de garçons de journaux, de commissionnaires qui attendaient là pour savoir si on avait fait droit à leur demande de billets de faveur déposés dans la journée. Dans le couloir, des petits clercs jouaient entre eux aux billes, attendant aussi des places demandées par leur étude et montrant par leur seule présence en cet endroit que le directeur du théâtre de l'Opérette avait, pour son malheur, des relations suivies avec les agréés, les avoués et les huissiers. Quand Poupardin parut, il se produisit chez la plupart de ceux qui étaient là un mouvement de curiosité et, chez la concierge, un empressement obséquieux qui était bien extraordinaire chez elle, car c'était une personne considérable qui tenait à faire sentir à chacun qu'elle avait vu d'autres jours. C'est que Poupardin, pour les gens de théâtre, était une sorte de prince de féerie, non pas un prince charmant, mais ce qui lui valait le respect, ce qui inspirait plus d'envie, un prince payant. Depuis que la mort de son père avait laissé à sa disposition une très grosse fortune, l'ambition de Poupardin, son désir et son occupation étaient d'avoir toutes les femmes que le théâtre mettait en vue, qu'elles eussent ou n'eussent pas de talent, qu'elles fussent ou ne fussent pas belles, peu lui importait. Dès là que, pour une raison quelconque, justifiée ou non, elles étaient en passe de devenir une étoile, si petite qu'elle fût, il s'accrochait à elle. Mais ce qu'il voulait, c'était les avoir et non les garder. Jamais on ne lui avait connu une maîtresse sans titre. Quand il pouvait dire d'une femme en vue « Connaissons », cela suffisait à sa gloire. Pour cela, il n'épargnait rien, tant peine ou argent. Ses bouquets étaient célèbres dans tous les théâtres, à ce point qu'en voyant arriver un beau bouquet, le premier mot que le concierge disait au porteur était « De la part de M. Poupardin, n'est-ce pas ? Parbleu ! Pour qui ? Si le nom de celui qui offrait était toujours le même, le nom de celle à qui on offrait changeait presque chaque fois, car Poupardin, qui était un homme pratique, n'abusait pas longtemps des fleurs, considérant que c'était de l'argent perdu. À un certain moment psychologique qu'il connaissait bien, il faisait intervenir des arguments plus sérieux, sous la forme d'une belle et solide bijouterie qui, au mont-de-piété aussi bien qu'en vente publique, pouvait se présenter avec des garanties de valeur réelle. Puis, la victoire obtenue, il disparaissait. Plus de fleurs, plus de bijouterie. Rien, rien qu'un souvenir qu'il gardait et qui amenait un sourire sur ses lèvres quand certains noms de femmes étaient prononcés « Connaissons ». Plus d'une avait voulu le fixer et le retenir. Aucune n'avait réussi jusqu'à ce jour. Il avait pour principe qu'il fallait changer de femme comme de cravate. Celle du temps gris n'était plus celle qui convenait par un jour de beau soleil. Il en fallait pour l'été, pour l'hiver. L'une n'était possible que le matin, l'autre la nuit seulement. Et comme son cœur ne s'était jamais laissé prendre, il avait pu ne jamais faire d'accroc dans cette ligne de conduite, ce dont il n'était pas médiocrement fier. « Quand je commence à penser à une femme avant de penser à moi, c'est qu'elle devient dangereuse et que le moment est arrivé de la lâcher. Et je la lâche. je ne revois que celles qui me sont indifférentes. » Quand Poupardin était entré dans la loge, la concierge s'était levée pour le recevoir et écouter sa demande. « Mademoiselle Raphaël, elle répète. Vous en êtes sûre ? Je pense, mais je vais aller voir de peur de me tromper. » Tout le monde se regarda avec stupéfaction. Jamais on n'avait vu si grande marque de faveur. Ce ne fut pas tout. Elle voulut que Poupardin entrât et s'assit dans la loge, ce qu'il fit volontiers. Et quand il la vit revenir, il se mit à caresser le chat qui dormait sur l'appui de la fenêtre. Elle ne s'était pas trompée, Mademoiselle Raphaël répétait, mais la répétition touchait à sa fin. En effet, au bout de 10 ou 12 minutes, un torrent parut se précipiter dans l'escalier descendant du théâtre. C'étaient les comédiens qui se sauvaient au plus vite. Raphaël parut à la queue de la file. Quand elle toucha la dernière marche, Poupardin lui tendit la main. « On vous trouve donc, enfin !»« Dame, en venant me chercher ?»« Je vous aurais cherché depuis longtemps si j'avais su de quel côté. » Elle se mit à rire. « Où allez-vous ? » demanda Poupardin. Elle hésita une seconde. « À la gare de l'Est. Voulez-vous que je vous conduise ? J'ai ma voiture. » Lorsqu'ils furent installés, il lui prit les deux mains. « Voyons, soyez franche, dit-il. Est-ce vrai que vous êtes avec nos rouses ?» Elle le regarda un moment sans répondre. « Je vous en prie, dit-il en insistant. « Eh bien, oui. Et pourquoi vous cachez-vous ? Pour être libre de mieux nous aimer, car nous nous aimons. Il m'aime à la passion, et moi, je l'adore. » C'est dur ce que vous me dites là, en face. En tout cas, il vaut mieux que cela soit dit. Et pourquoi ? Mais pour que notre position soit bien nette. Je vous déplais donc bien ? Non, vous ne me déplaisez pas du tout, au contraire. Et si je n'avais pas aimé Roger, je n'aurais pas répondu à vos lettres comme je l'ai fait. » Le visage de Poupardin s'épanouit. « Mais je l'aime, je l'adore. Maintenant, je veux bien ajouter, puisque vous dites que je suis cruelle en parlant ainsi, que si je le trompais jamais, il me semble qu'il n'y a qu'avec vous que cela serait possible. Mais nous voici arrivés, laissez-moi descendre. » « Pas encore. Il faut que je prenne le train. » Nous nous reverrons quand vous voudrez. Votre voiture est excellente. C'est plaisir d'être porté dedans, près de vous. À demain, alors. Si vous voulez. » Quand elle eut vu la voiture de Poupardin disparaître dans le boulevard, par les escaliers qui sont à gauche de la gare de Strasbourg, elle gagna la rue de Dunkerque et la gare du Nord.